Immobility Salon est un projet de sieste conférence créé par Alix Enaudi pour le cycle qu'elle a organisé à la Grange de Dorigny en avril 2024. Elle a invité les Médusales à proposer une sélection de livres et à les partager. Nous avons donc choisi des livres issus de notre catégorie Lutte et littérature locale. Puis nous avons créé cette pièce sonore faite d'extraits de textes, d'enregistrements et de musique qui réunit différentes voix en lutte en Suisse romande. Ainsi, vous pourrez entendre dans cet ordre un extrait de la lecture du texte « Jour de fête » écrit par Léa Katerina Meyer, enregistré en 2023 au Médusal. Un extrait du livre « Ponte en mis tacones » de la Diabla, un ouvrage publié en espagnol et en français aux éditions Aspasie en 2022. Un extrait de l'ouvrage collectif « Undoing Race, racialisation en Suisse » publié aux éditions Seismo en 2022. Le poème de Cecilia Moya Rivera, Decir ciao es difícil cuando se tiene el corazón tan acostumbrado a la distancia. Saying goodbye is difficult when your heart is so used to the distance. Ce poème a été lu au Médusal en 2023. Vous entendrez aussi un autre extrait de Ponte en mis tacones de la Diabla, puis un extrait de l'émission Vertigo paru en juin 2023 autour du livre de Mathias Sauvald « Cousu pour toi » et un extrait lu de son texte « Cousu pour toi » a été publié aux éditions Scribe en 2023. « Whore Power » Travailler, lutter, diffuser, archives militantes du Centre Grésil et d'Esréal de documentation internationale sur la prostitution. Un ouvrage publié par Aspasie en 2022. Vous pourrez entendre un extrait de l'article « J'écris ma lignée » par Yumi Volupté et Zoé Blanc-Scuderi. Vous entendrez aussi un extrait de la brochure « Before We Die » de Ahama, publié par Projet Évasion, un texte qui a été traduit en allemand, turc et espagnol en 2023. Vous pourrez entendre l'extrait lu en français. Puis, la conférence TED à Lausanne, faite en 2018 par Meloé Guenaï, intitulée A Poet's Journey to Self, A Poet's Advocacy for Diversity. Nous vous souhaitons une belle écoute.
Jour de fête, une fable désirante et désirée.
Prologue, les feux éternels ex, quand l'aube est une ex-révex, contre heureux ex d'un temps lointain ex.
Il était une fois, les étoiles s'évanouissant délicatement autour d'une ville nommée Désir. Alors, la lune disparaît lentement dans le ciel au-dessus d'une ville nommée Désir. Les immeubles s'étirent, les longues routes d'asphalte brûlante bâillent. Les lampadaires s'endorment profondément. Les yeux des feux de circulation s'ouvrent péniblement. Encore rempli de petits grains de sable. Certaines bouches d'égout laissent échapper un liquide mousseux, comme celui de la bave qui vient mouiller l'oreiller quand on dort la bouche grande ouverte. Alors, c'est comme des pleurs de la bouche sur les grandes routes qui traversent Désir. Des animaux fabuleux ex, des plantes qui volent, des miasmes qui marchent et toutes sortes d'organismes monstrueux ex viennent lentement s'abreuver et étancher leur soif dans les accumulations de pleurs baves formées aux quatre coins de la ville nommée Désir.
Un jour, j'ai rencontré un mec sur un chat de Vodafone, en mode pote. Il m'a demandé où je travaillais, je lui ai dit « dans un supermarché ». Sur les chats, tout le monde ment. Après un mois à discuter, nous avons décidé de nous voir. Nous avons mangé une pizza et nous avons fini par baiser. Nous nous sommes souvent vus, presque tous les jours, en mode plan cul. C'était agréable de vivre ça en dehors du travail, pour faire une pause. Je n'avais pas besoin de plus. C'est alors que j'ai fait la connaissance d'une autre trans équatorienne, Gina. Elle était brune avec des traits de chinoise. Elle était aussi assez méchante et vicieuse, mais elle avait un côté sensible et tendre. Elle était ange, démon et pute. Vraiment pute. Elle m'a proposé d'aller travailler à Las Palmas de Gran Canaria et nous y sommes allés. Nous avons beaucoup travaillé et bien travaillé. Moi, j'étais encore avec mon plan cul qu'on appellera l'abruti dorénavant. Et je retournais à Alicante pour le voir. Nous étions ensemble depuis 3 ans quand il m'a proposé de vivre ensemble. En même temps et après notre glorieux séjour à Las Palmas, Gina m'a proposé d'aller en Suisse à Bâle. J'ai accepté les deux propositions. Je suis allée vivre avec l'abruti et j'ai travaillé dans un appartement privé à Bâle. Je travaillais 20 jours en Suisse et j'en passais 10 en Espagne. J'ai ainsi vécu pendant 4 ans. Ma relation avec l'abruti changea petit à petit, pour le pire bien sûr. Parfois, dans une relation, quand l'un des deux est plus indépendant, tant physiquement qu'économiquement, et encore plus si c'est une femme, la jalousie apparaît. L'abruti n'arrivait à se sentir bien qu'en me rabaissant, en m'ignorant, en exigeant de moi une soumission totale. Quant à moi, c'était comme si j'avais un trouble de la personnalité. En Suisse, j'étais forte, indépendante, je ne laissais aucun client me manquer de respect. Par contre, en Espagne, l'abruti m'humiliait et me faisait toujours plus de mal. Comme dans beaucoup d'autres situations, c'est une pute qui m'a sauvée. Une collègue a vu la tristesse qui m'accablait et a su m'ouvrir les yeux avec un seul mot. Ton mec est ton Mac. Je suis rentrée à la maison pleine de force et j'ai eu le courage de le quitter, après 7 ans de misère. Le mot Mac me secoua comme une décharge électrique. Je m'étais toujours juré que je n'aurais pas de Mac dans ma vie professionnelle, alors comment pouvais-je consentir à en avoir un dans ma vie privée ? Le quitter, c'était comme récupérer mon deuxième poumon. Briser les chaînes qui m'entouraient et m'empêchaient de respirer. J'ai seulement pris un string de rechange, un soutien-gorge, 400 euros et mon passeport. J'ai appelé Vanet, un très bon ami à moi qui travaillait dans une agence immobilière. Il a réussi à me trouver un appartement que j'ai encore aujourd'hui. Dès l'instant où j'ai quitté l'abruti, j'ai senti qu'encore une fois, je recommençais à zéro. Le 7 novembre 2016, Mohamed Wabaile et une 60aine de personnes venues les soutenir se tenaient devant le tribunal d'arrondissement de Zurich. Plus d'une année auparavant, Wabaile avait refusé de montrer sa carte d'identité après un énième contrôle de police qu'il avait dû subir à la gare de Zurich. En collaboration avec des activistes, il avait décidé de faire recours contre l'ordonnance pénale qui le voyait condamné à payer une amende de 100 francs pour son refus d'obtempérer. Après une première audience au Stade Richteramt de Zurich, Wabaile et son groupe de soutien avaient décidé de maintenir le recours afin de confronter le système judiciaire et policier suisse à l'enjeu du profilage racial. Wabaile devait ainsi siéger au tribunal d'arrondissement de Zurich. Il était venu avec le visage grimé en blanc et s'était nommé Weisser Peter, Peter Blanc. Devant ses soutiens et les médias, il avait déclaré « Je ne peux pas quitter la maison, aller faire des courses ou venir ici, au tribunal, sans être stoppé pour un contrôle d'identité. C'est pour cela que j'ai fait usage de mes privilèges blancs, aujourd'hui. » Ce n'est pas uniquement mon jour. C'est un jour pour tout ex les Noirs, pour les personnes nord-africaines ou arabes. C'est un jour pour toutes les personnes qui protestent contre les contrôles racistes. Il m'importe que vous ne me voyez pas comme une victime. Je ne suis pas une victime, mais, soyons clairs, je ne suis pas un héros non plus. Je suis un citoyen ordinaire qui se bat pour ses droits, qui en a eu assez des contrôles racistes. Je veux vivre en Suisse et aller dehors avec mes enfants, comme toutes les personnes blanches, sans être irritée ou embêtée parce que j'ai oublié mon passeport. Je veux être énervée lorsque j'ai oublié mon portable, comme toutes les personnes blanches. Merci. Je vais aller nettoyer ce maquillage. Je dois retrouver ma couleur de peau pour entrer dans le tribunal. Après cette déclaration, Wabaile laisse une centaine de personnes parmi ses soutiens qui avaient pu se voir garantir une place, parmi lesquelles je me trouvais également, entrèrent dans la salle de tribunal. Beaucoup d'entre nous étaient des personnes marquées par la différence raciale. Étant donné le nombre exceptionnel de personnes qui s'étaient mobilisées pour le procès, ce dernier avait lieu dans la plus grande salle du tribunal d'arrondissement, qui ne contenait cependant qu'une cinquantaine de sièges. L'un des buts de la démarche de Wabaile et de l'Alliance contre le profilage racial était de rassembler et d'amplifier les points de vue des personnes touchées par le profilage racial. Pour cette raison, ce sont les personnes marquées par la différence raciale, ainsi que le groupe d'observation du procès qui eurent la priorité pour assister au procès. Pour ma part, j'ai été ainsi parmi les premières à pouvoir entrer dans la salle, en ma qualité de personne afro-descendante et de membre de la European Race and Imagery Foundation, ainsi qu'à l'époque du collectif Afro-Suisse, deux organisations qui soutenaient cette mobilisation. Le procès commença. Le juge, un homme blanc, nous demanda à plusieurs reprises de nous tenir calmes. « Comme nous sommes un certain nombre, je vous prierai de rester calme et silencieux afin que nous puissions mener à bien cette audience, » dit-il au début du procès. « Je vous remercie que l'on ait pu mener à bien ceci dans tant de calme. C'était très agréable, » dit-il avant de nous demander de quitter la salle pour mener à bien sa délibération. « Je souhaiterais que la salle reste calme et pacifique, » dit-il juste avant de prononcer la sentence qui reconnaissait Wabaile coupable. Tout comme tout à l'heure, je suis très heureux que la salle soit calme, dit-il encore après avoir explicité les raisons pour lesquelles Wabaile était reconnu coupable. Vous vous opposez au fait que des humains soient discriminés en raison de leur couleur de peau. Continuez, mais quand vous le faites, continuez à le faire pacifiquement, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Ayez confiance dans l'état de droit. Tous les humains sont égaux devant la loi. Ne riez pas, dit-il, après avoir rendu son verdict. « Je vous remercie encore pour votre attention et votre calme, » conclut-il. Nous sortîmes de la salle. Quelques mois plus tard, après une série d'audiences en appel, la sentence de Mohamed fut définitivement confirmée par le tribunal fédéral.
Merci pour l'invitation, merci d'être ici, c'est dur avec la pluie et tout. Et puis, en fait, Manoï, c'est la première fois que je partage ce poème, j'ai écrit récemment. Et puis, je vais lire en espagnol, et puis Jonas, il va lire le même poème en anglais. Mmh. Puis il a des termes qui ne sont pas traduits, parce que c'est des mots de l'espagnol chilien. Puis après, si vous savez des choses que vous n'avez pas trop compris, of course, que parlez. Decir chao es difícil cuando se tiene el corazón tan acostumbrado a la distancia.
Saying goodbye is difficult when your heart is so used to the distance.
Cuesco. Crecí con la costumbre de que la vida es rápida, los amores dolorosos, la comida poca, los padres ausentes y las aguas sucias. Crecí con mesura del futuro y amnesia del presente. Crecí creyendo que humildad es sinónimo de ausencia.
Fruitstone. I grew up with the idea that life is fast, loving is painful, food is scarce, fathers are absent, and the waters are dirty, las aguas sucias. I grew up with worriedness of the future and amnesia of the present. I grew up believing that humility is synonymous of absence.
Basic astrology. A veces me da miedo que me cambien el ascendente y dejar de parecerme a ti. Porque no hay nada más lindo que parecerse a alguien, identificarse, sentirse parte de... ¿Tú cachai? A veces me da miedo que se me cambie el ascendente y así dejar de parecerme a ti. Porque no hay nada más lindo que parecerse a alguien. Sobre todo, no hay nada más lindo que parecerse a ti. Y sobre todo, todo, no hay nada más lindo que parecerme a ti.
Basic astrology. Sometimes I'm afraid that they'll change my rising and I won't look like you anymore. Because there's nothing prettier than to look like someone else. Identifying yourself, to belonging, to kachai. Sometimes I'm afraid that my rising will change and I will stop looking like you. Because there's nothing more beautiful than to look like somebody. Especially, there is nothing more beautiful than look like you. Y sobre todo, no hay nada más lindo que parecerme a ti.
Mon corps est mon entreprise, et une entreprise, pour générer des revenus, doit se faire connaître à différents endroits et découvrir où il est possible de gagner le plus et où sont les bons clients. Après avoir réglé tous mes papiers, mon premier voyage a été à León. Je vivais dans un appartement au numéro 1 de la rue Los Cubos. Je travaillais dans le parc de Papalaguinda, proche de la gare et des bus. La promenade de Papalaguinda est une grande avenue avec beaucoup de circulation. C'était très dangereux. Une nuit, j'ai connu un garçon. Il s'appelait Ivan. Il venait toutes les semaines. Il travaillait dans les mines et pensait que j'étais une femme cis. Un jour, le préservatif a craqué. Ça ne m'inquiétait pas parce qu'il n'avait pas éjaculé en moi. Tout son sperme avait atterri sur ma jambe. 3 mois après, j'ai fait des analyses pour écarter tout problème. Même comme ça, je n'en pouvais plus et j'ai décidé de partir à Oviedo pendant 15 jours. Beaucoup d'entre nous, les travailleuses du sexe, quand nous pouvions nous le permettre, nous voyagions et travaillions ailleurs. Dans les Asturies, j'ai travaillé chez Doña Michelle, un bar traditionnel. C'était comme une vieille auberge où il n'y avait que des vieux. J'y ai travaillé 2 mois. Ivan et moi étions encore en contact par Messenger. Il m'a demandé pourquoi je n'allais plus au parc et je lui ai dit qu'après l'épisode de la capote, j'étais tombée enceinte. Pour qu'il croie à ce mensonge et pour lui soutirer un peu d'argent, j'ai demandé à une amie qui était vraiment enceinte d'uriner sur un test de grossesse. Je l'ai envoyé à Ivan et lui ai demandé 500 euros pour avorter. Le pauvre Ivan me les a envoyés. J'avais besoin d'envoyer cet argent à ma famille, donc je ne me sentais pas coupable.
Toujours prêt à me recevoir, à m'écouter lorsque j'avais besoin de quelqu'un pour m'ouvrir mon cœur.
Voilà l'ouverture de cette émission du 27 novembre 1994, diffusée donc par Viva. On comprend en entendant cet extrait d'où vient le titre de votre livre « Cousu pour toi ». Mathias Oval, qu'est-ce qui se passe pour l'ado que vous êtes quand vous découvrez cette émission ?
Il se passe beaucoup de choses. Il se passe, je pense, ce qui vient de se passer à nouveau maintenant en réécoutant ces paroles, c'est-à-dire une émotion assez brute. Une émotion de découvrir ces personnes qui sont liées d'un lien si fort qu'elles trouvent encore la force, ou elles ont peut-être besoin, de se raconter à travers ces patchworks. Et aussi, c'est tout de suite un autre pendant. Je ne sais pas si je l'avais pressenti déjà à l'époque ou si c'est reconstruit, parce qu'évidemment, le travail est un travail de reconstruction. Mais c'est aussi de voir à la fois la beauté de ce rituel, la beauté de ces patchworks qui étaient tous individuels et qui étaient remplis de l'affect de chacun, et les amis se retrouvaient, la famille se retrouvait pour coudre et puis pour trouver des motifs qui représentaient la personne. Donc c'est ces patchworks qui sont là et qui éclairent d'une lumière et d'une esthétique très spécifique cette épidémie. Donc de laquelle on a surtout vu les choses les plus sombres, Philadelphia, les nuits fauves. Et puis là, ce qui me revient, c'était effectivement ces très beaux tableaux.
Le plan s'élargit. Je le trouve beau, cet homme. Il porte des lunettes métalliques rondes et ses cheveux bruns sont tondus courts. Il est inscrit à l'écran qu'il s'agit d'Alexander, de Zurich. Autour de son visage, le réalisateur a intégré des images d'un couple d'hommes qui rigolent, puis d'un couple hétéro qui se balade main dans la main dans les rues d'une ville. Le couple s'enlace derrière Alexander. La femme sourit, les yeux fermés. Point par point, pour toi. Toujours prêt à me recevoir, à m'écouter, lorsque j'avais besoin de quelqu'un pour ouvrir mon cœur. Point par point pour toi, qui, lorsque j'en avais besoin, m'a aussi soutenue, financièrement, et qui m'a cousu sur mesure les plus beaux habits. Alexander continue de dire son poème en voix off, alors qu'on le voit coudre à la main un tissu blanc avec un noir. Ses gestes sont précis, son regard concentré. Il coupe un fil avec ses dents. Point par point pour toi, avec tes cheveux blonds, pour toutes les nuits transformées en jours, que nous avons passé à danser. Point par point pour toi, que j'ai ramené ivre mort à la maison, qui savait toujours être de bons conseils, sauf pour toi-même. Point par point pour toi, parce que tu étais aussi démunie et vulnérable que moi. Parce que tu étais trop fière pour avouer que tu étais malade. Point par point pour toi, qui a plus souffert de ta fierté que de tout autre mal, qui a choisi avant qu'un virus ne le fasse pour toi. Point par point pour toi, Thomas, par amour pour toi. La moitié gauche de l'écran montre une photo de Thomas brandissant des ciseaux devant lui sur fond noir, à la hauteur du cœur d'Alexander, plantaille. Puis, en contre-plongée, Alexander coud à la main un point au fil blanc. À la fin de la séquence, on découvre le panneau achevé, un rectangle noir transpercé d'un triangle blanc, duquel Thomas surgit, ciseau à la main, donnant l'illusion qu'il s'est taillé une ouverture dans la toile noire. Dans son sillage, brodé dans le blanc, le poème d'Alexander. Avec tout ce que je comprends et tout ce que je ne comprends pas, pour ce que nous avons vécu ensemble, pour ton histoire, merci. Car c'est toi qui m'as appris à coudre, point par point. La musique s'interrompt. Alexander est face à la caméra. Il enlève ses lunettes qui laissent une marque rouge sur l'arête de son nez. Il est assez pâle. Il a l'air triste et fatigué. Il nous regarde droit dans les yeux et j'ai l'impression que c'est à moi qu'il parle. Finalement, je sais que chaque point pour toi est aussi un point pour moi. Mes yeux s'humectent et je sens un sanglot monter dans ma gorge. Je pourrais essayer de me laisser pleurer, mais je suis distrait par les protestations de mon frère qui ne veut pas aller se coucher. Je ravale le sanglot, approche mon fauteuil du téléviseur et je branche mes écouteurs. Je touche l'écran du bout de mes doigts. L'électricité statique fait se dresser les poils du dos de ma main. Je caresse la joue d'Alexander, qui n'est plus qu'une combinaison de minuscules hexagones vert, rouge et bleu. Où est Alexander ce soir? Je jette un œil sur le voyant lumineux de l'enregistreur. 4 minutes et 47 secondes. Le visage d'Alexander est remplacé par une séquence animée dans laquelle une aiguille brode le titre du film sur une musique enfantine, très enjouée, qui m'étonne, vu le contexte. Après le générique, on entre dans les locaux de l'atelier Patchwork de Genève. Il y a du linoléum et c'est éclairé au néon. Mais il y a aussi de la vie dans les cartons empilés, les chaises dépareillées, et le désordre sur la table autour de laquelle une dizaine d'adultes semblent faire du bricolage. Gros plan sur des mains qui arrangent les lettres du prénom Gabriel. Découpe des formes dans de la feutrine verte, passe le fer sur une photo pour la transférer sur le tissu. Les mains se passent ensuite des photos de Gabriel et les disposent sur un panneau au tissu doré. Gabriel avec des amis, Gabriel enfant, Gabriel en noir et blanc, juste au corps de danseur. Gabriel dans une voiture devant une barre d'immeubles. Gabriel tout sourire à la plage, sa blondeur sur le sable, un pendentif en or autour du cou. Je me sens mal. Pour ce Gabriel que je ne connais pas, et pour moi-même. J'imagine ma famille et mes amis autour d'une table, dans quelques années, réunis autour de la machine à coudre Elna de ma mère. Grand-maman Mado aura dessiné les motifs, grand-papa Pierrot ramené l'étoffe de chez Beauvais Tissu et des accessoires du bouton chic. On évoquera mon souvenir en se passant des photos de moi de main en main. Moi au parc de Morpeau pour une cérémonie scout, moi devant la fontaine de Trévis lors de mon voyage d'études à Rome, moi avec mon frère à l'arrière de la voiture, moi dans un hélicoptère dans la vallée de la mort, la mèche au vent, moi, au sommet de la colline de Montrion, prenant la pause devant le lac. On va évoquer la mer. Les dauphins étaient d'une grande importance pour lui. Explique l'une des amies de Gabriel, accoudée à une machine à coudre pendant qu'une autre femme découpe un grand dauphin dans la feutrine verte. Pour lui, c'était mieux que des humains. D'ailleurs, il avait autour du cou, les derniers jours, un petit dauphin que son papa m'a donné en souvenir de lui. Hors champ, le réalisateur s'adresse à un autre ami. Pierre Alain. Ce dauphin qui est au cou de Gabriel, vous l'avez vu de très très près à la toute fin de la dernière année. Oui. J'ai fini l'année 93 et commencé l'année 94 avec Gabriel. Nous étions à l'hôpital où il passait ses derniers jours. Et c'est donc en ma présence qu'il a quitté ce monde, en début d'année. J'étais là au moment fatidique où il est parti. Plan fixe sur le patchwork achevé, sifflement de dauphin, je ferme les yeux. À qui puis-je me raccrocher? À quel récit me tenir? Vers quel modèle puis-je me tourner pour me sentir légitime à simplement être? J'aurais besoin qu'on me prenne doucement la main et qu'on me dise que mes choix sont justes, que le sens que j'ai choisi à ma vie est légitime et que je suis profondément aimée pour qui je suis, Où sont mes ancêtres? On dit le plus vieux métier du monde. Alors où sont-elles dans l'histoire, ces putains? Où est ma lignée? Les seules auxquelles me raccrocher, ce sont mes consoeurs, mes sœurs de cons et mes amis. Mais nous sommes à égalité et j'ai besoin de figures plus grandes que moi. La seule alors qui vient combler mon besoin de sens, d'amour et de poésie, c'est Chrysélidis Réal. Elle est la seule qui, dans mes moments de doute, me permet de me sentir légitime à être. Alors je me replonge dans ses écrits pour y trouver une alliée. Une amie qui me conterait son quotidien, sa soif d'amour, les joies et les peines que le sexe monnayé avec des inconnus impose. Qui me redirait comme nous sommes utiles à ce monde, si obsédés par la sexualité et si profondément frustrés. Et pourtant, quand tout un chacun s'abandonne à la volupté, quel bonheur de se sentir vivante, quel sentiment de reliance au monde, quel plaisir d'être soi, d'être un corps qui jouit, qui est touché et reconnu, fût-ce par une fille de petite vertu, mais de grande joie. Je m'accroche à Chrysélidis comme à la seule bouée d'identification que j'ai. Je reprends force, plongée dans les récits de cette grande dame, et elle donne du carburant à mes réflexions. Je pense que pour pouvoir être fière, sans plus n'avoir aucun doute sur ma valeur, il est nécessaire que je me crée une représentation de moi-même et des putes en général, inébranlablement belles. Ce qui fait qu'on admire une personne est souvent la mesure de ce qu'elle apporte au monde. Le discours ambiant tend à dire que nous, putains, ne produisons rien et par extension ne sommes pas vraiment utiles si ce n'est à servir de déversoir aux pulsions masculines irrépressibles. C'est faux. C'est une vision sinistre du monde. Je ne suis pas dans l'ombre de l'humanité. Je rends le monde plus beau. Je suis du côté de la lumière. Au centre d'archives de Chrysélidis Réal, j'écris entouré de livres relayant une parole si souvent muselée, comme si toutes celles qui m'ont précédée étaient là autour de moi. Il faut dire. Il y a une urgence, vraie, à dire ces vérités cachées. Je sais que je ne suis pas la première à être saisie par cette urgence et que je marche dans leurs pas. Là est ma lignée. Celle de femmes fortes et puissantes qui ont traversé l'histoire et ont été tuées, ignorées, effacées. Mais ici et maintenant, parce que le centre d'archives existe aujourd'hui comme une institution, nous avons enfin un lieu pour conserver et faire converger notre parole, nos expériences, nos vies, nos réflexions. Ici et maintenant, nous écrivons notre histoire, pour que l'histoire ne nous efface plus. Nous ne nous tairons plus, disait Chrysélidis. Et c'est ce qu'elle nous a offert de plus beau, en léguant ses archives personnelles. Un lieu pour que notre parole demeure, un lieu pour nous relier, un lieu pour que s'écrive enfin notre lignée.
le fait qu'elle nous emmène dans les rues certains jours de l'année, escortée par la police, pour nous apprendre à marcher sur la route et à traverser la rue, n'est pas possible à interpréter comme partant d'une bonne volonté, mais maladroitement traduite en acte. Car il est évident que cette marche honteuse, organisée au nom de l'éducation et à laquelle la participation est obligatoire, est très éloignée de la vie quotidienne de toute personne vivant dans ce pays. On témoigne le fait que pendant que nous essayons de marcher d'un endroit à l'autre en étant stressés et en nous cognant les unes les autres, les habitants des environs nous regardaient depuis leur balcon comme si nous faisions partie d'un cirque. Conscientex que personne de celles qui organisent, gèrent, supervisent ou contrôlent cet « exercice » entre guillemets, n'accepterait de se voir dans cette position, nous marchons à quelques mètres d'élu, à une distance où la différence de valeur entre nous est frappante. Nous sommes obligés de digérer ce spectacle de dévalorisation parce que nous craignons que l'interminable série de causes et de conséquences liées au fait de ne pas faire ce qu'on nous dit être obligatoire ne nous renvoie dans les pays où nous avons été traumatisés. Sans exception, chaque migrantex doit construire sa vie plus ou moins à l'ombre de cette angoisse. Tant que cette anxiété existe, il importe peu qu'elle soit réaliste, exagérée, possible, illégale, lâche, irrationnelle, etc. Pour une personne ayant dû quitter son lieu de vie, le fait de savoir que cette éventualité est possible d'une manière ou d'une autre crée une différence de dignité infranchissable avec une personne ne vivant pas cette éventualité. Tant que l'épée de la déportation sera suspendue au-dessus de nous, nous ne pourrons jamais ressentir la « valeur » entre guillemets qui nous protège de l'autodestruction. Pour commencer à nous rendre notre valeur usurpée, le système de renvoi qui nous fait passer de quelqu'un à quelque chose doit être aboli immédiatement. De grandes mains qui nous transportent d'un endroit à l'autre en nous prenant par la tête comme si nous étions les pièces d'un jeu. Un État qui trace une ligne autour d'une région et nous dit que nous ne pouvons pas vivre ici, alors même que nous sommes une partie naturelle du monde, qui nous transforme en objet comme un paquet de marchandises, avec écrit dessus « expéditeur suisse » et « destinataire Grèce ». Une directrice d'institution a le pouvoir de couper, pour toujours, nos liens avec le pays dans lequel nous avons construit. Je parle ici de quelque chose d'insupportable et qui les dépasse. On nous renvoie dans des pays où nous avons subi des traumatismes, où ces traumatismes sont ignorés et où personne n'a l'intention de les réparer. Pour le dire encore plus clairement, on nous renvoie vers les persécutions auxquelles nous avons été exposés et auxquelles nous avons réussi à échapper. Grèce, Croatie, Slovénie. Pour de nombreuses personnes migrantes, ce ne sont pas que des noms de pays. Ce sont des pays où l'on nous demande de nous noyer dans leurs rivières et de geler dans leurs forêts. Où l'on nous bat dans les zones officielles, où l'on nous vole dans les zones non officielles et où l'on nous jette dans des endroits isolés, où tout cela devient une politique d'État et n'est pas puni. Nous avons même perdu le privilège de pouvoir parler de ces pays sans frémir. Beaucoup de mes amix me disent que même si un jour elles obtenaient la nationalité suisse, des garanties de sécurité et des opportunités économiques, elles ne pourraient pas aller en Grèce, même pour des vacances. Face à ces informations, je sais à quel point il était dévastateur de dire à Ali Reza, 18 ans, qui a réussi à fuir la guerre en Afghanistan alors qu'il était enfant, qui a survécu à des violences sexuelles dans un camp en Grèce, qui a atteint la Suisse et qui a pu y reconstruire sa vie. « Tu vas maintenant vivre en Grèce. » C'est eux qui lui ont donné cette décision, le savaient aussi. Ali Reza a mis fin à ses jours à Genève le 30 novembre 2022. Immédiatement après que le tribunal administratif fédéral suisse lui ait notifié cette décision. Le tribunal et le SEM savaient, suite aux rapports médicaux, que la décision de le renvoyer pouvait lui coûter la vie. Après sa mort, Anne César, attachée de presse du SEM, a, dans une déclaration éhontée, parfaitement représenté l'organisation criminelle qui a tué Ali Reza et la politique d'immigration de la Suisse. Début de citation. Le risque de suicide n'est pas un obstacle à la décision de le renvoyer. Si c'était le cas, nous n'aurions pu renvoyer personne. Les procédures étaient conformes à la loi. » Fin de citation. Il y a eu des reportages, des débats publics, des protestations. La décision a été condamnée. On a cherché à la blâmer. Certains étaient indignés, d'autres attristés. Pendant tout ce temps, quand le grand public s'est enfin rendu compte qu'il était une personne et qu'il valait quelque chose, Ali Reza n'était plus là. À un moment qui n'avait pas de sens pour lui, beaucoup de politiciennes ont soudain déclaré qu'elles étaient désolées pour Ali Reza. Néanmoins, son aventure consistant à courir après la valeur qui lui a été volée depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort ne semblait pas assez triste pour quiconque. C'est exactement la raison pour laquelle, malgré les centaines de politiciennes horribles, les politiques d'immigration et la xénophobie qui ont dévalorisé Ali Reza depuis son arrivée en Suisse, nous devons nous opposer de toutes nos forces contre le fait que tout le monde ait les yeux fixés sur le dernier moment du suicide, le dernier moment où la bombe à responsabilité a explosé. C'est un effort collectif et de longue haleine qui a opprimé Ali Reza, jour après jour, l'a découragé, l'a rendu désespéré. La façon dont il a vécu devrait être aussi intéressante que la façon dont il est mort. Nous sommes des migrants ex qui avons réussi à survivre aujourd'hui malgré la destruction systématique de notre estime de soi par les politiques suisses. Mais nous ne sommes pas loin de l'abîme dans lequel Ali Reza a été poussé. Nous sommes des personnes qui sommes obligées de danser sur la ligne entre la vie et la mort à cause de l'endroit où nous sommes nés ou d'où nous avons migré. Quand nous ne mourrons pas, nous ne pouvons néanmoins pas vivre comme nous le méritons. Malgré la dynamite qui a été placée partout dans notre quotidien, nous parvenons à survivre avec nos propres ressources, nos outils, nos amis et notre solidarité. C'est précisément pourquoi pour nous, lorsque le suicide est un processus d'autodestruction, la survie se transforme en un acte de résistance et de solidarité. Notre meilleur outil de défense dans cette action, dans laquelle nous nous trouvons involontairement, consiste dans le fait de nous dire que notre valeur est due au fait que nous existons. Aucune autorité ne peut nous la donner ou nous la retirer.
What are you doing here? Where are you from? No, I mean, where are you really from? Where were your parents born? And your grandparents, where were they born? What are you? Are you a man or are you a woman? What were you born as? Who do you know? What are you? How do you have sex? With whom do you have sex? What are you? Why are you here? You know, many people have made me believe that I would be happier if I lived within the boundaries. And throughout my life, I have been read as male, as female, as gay, as straight, as Asian, as black, as white, as Latino, as Arabic. And today I'm here to give you some realness beyond the race and gender binary. I am here to talk to you about myself. And I'm here to talk to myself about you. I could start explaining 100 of words to describe different genders and colors on a spectrum and which ones I identify as, but I won't. Because I believe it's not time to learn. It's time to feel. What are you? They ask. What are you doing here? They ask. Where are you from? They ask. Love, I answer. Love is what I'm doing here. Love, I answer. Love, I think, is where I come from. Love, I answer. Love is what I am. And throughout my life, people have asked me, why do you love yourself? You should be this or you should be that because you are a female. And femininity was meant to be sorry for taking space. And femininity was meant to be, make herself lovable, to fit in and to fit out, and to fit left and to fit right, and to walk around with a bowed head. And you should be this and you should be that, they said, because you are a man. And masculinity is not sensitive, and masculinity does not cry, and masculinity doesn't have its periods. And there is no such thing as something in between the two energies. And since birth, our body defines everything about us, they say. And you should be this, or you should be that, they said, because you are part black. And blackness was meant to hate herself. Blackness was meant to work for free. Blackness was meant to be used. Blackness was meant to be thankful to be alive. Blackness was meant to be silent. And you cannot love this person, they say, because she's a man. And you cannot love that other person, they say, because he's a woman. Because it's written somewhere. Because it's written somewhere. And you cannot be natural, because it's unnatural. And they taught the same thing over and over. And they say, it has always been like this, since before you were born, since the beginning of time, and things don't change. Things do not change, they say. This belief made me feel stuck. I felt stuck. And as I'm stuck, I sink. And as I sink, I drown. And as I try to stay afloat, I realize that it is an artificial reality I'm drowning in. A reality to which I was imposed. So one day I decided to simply deny this reality. And I chose life instead. And I chose to feel. And I chose me. And I chose to accept my truth, our truth. Because we, the people, the people that were erased from history, are uncloaking this masquerade through our own understanding of identity, our own understanding of beauty, our own understanding of time, and our pace is connected to the center of Mother Earth. And I'm not alone anymore. I'm part of the community of the Awoken. Your colonization has failed. We rose from the corners of history, erasure incomplete. The erased have risen. It's the era of the margins. It's the era of the stolen from. You can beat us. You can kill us with your labels. Yet we are alive. You can look away. Yet we are here. Yet we are queer. We will not assimilate. We will not normalize. We will live without boundaries. We have the power to determine our faith. We have the power to convene our spirits. Secret reunions of spirits. Invisible creation of truth. And as you were asking, what are you? We are a sky full of stars. We are joy. We are beauty. We've got dance. We've got freedom. We've got truth. We've got love. We've got life. And we are many kinds of free.